espérance qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit-Saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur. Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le début de cette lettre est particulièrement éclairant pour nous aujourd'hui. La communauté des croyants est regardée comme une réalité spirituelle, mais encore comme insérée dans le mystère divin, comme faisant partie de la famille de Dieu. L'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ces fidèles sont intégrés au peuple de Dieu. Leur foi, leur amour, leur espérance expriment qu'ils se reçoivent de Dieu. Et nous en arrivons à la nature même de l'Évangile, puisque c'est le sujet principal de notre rencontre, pas un simple discours, lecture d'un texte, mais œuvre de puissance. Notre annonce de l'Évangile, je cite à nouveau, chez vous, n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit-Saint et merveilleux accomplissement. L'accomplissement, c'est principalement la conversion, la transformation de chacun en vue de la construction commune, mais aussi tant de fruits inattendus et incontrôlables. On ne maîtrise pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons que servir cette parole. C'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur. J'aime bien cette formule passive, cela nous est arrivé. Ça fait penser au prophète en particulier, avec Jérémie, avec la parole de Dieu qui lui tombe dessus, et il est comme un peu paniqué, embarrassé par cette parole, parce qu'il ne rencontre pas que des auditeurs bienveillants et attentifs. Et ainsi, une expérience de l'apôtre, et qui est une expérience de dépossession de lui-même. Et cette expérience est partagée avec la fougue que nous lui connaissons. Cette expérience est celle d'une communion en Christ avec cette formule très audacieuse « Vous nous avez imités, nous et le Seigneur », qui reprend d'ailleurs ce qu'on trouve par ailleurs avec l'Esprit Saint et nous avons décidé que dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas la simple parole d'un prédicateur, d'un éminent comme Paul, mais la parole de Dieu par la bouche de Paul, lui-même étant dépassé par le message dont il était porteur. C'est donc cette parole de Dieu qui retentit non seulement en Macédoine, mais ailleurs, et la nouvelle de votre foi, les chrétiens de Thessalonique sont devenus eux-mêmes bonne nouvelle. Ils prêchent l'Évangile par leur conduite, déjà, dans une ville carrefour, connue pour ses pratiques païennes. Une expérience, une existence renouvelée par la foi au Dieu de Jésus-Christ. Cette existence renouvelée qui est devenue elle-même parole de Dieu, ce qui se dit en latin, Dei Verbum, c'est le titre de ce grand document du Concile Vatican II, dont nous parlerons dans un instant. C'est ainsi que je comprends, j'introduis le sujet, l'Évangile pour notre société. Il me semble intéressant, avant toute chose, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu avant de développer un certain nombre de thèmes. Nous mettons d'abord, comme dit le Concile Vatican II, religieusement à l'écoute du Verbe. La formule est admirable et elle est toujours, pour nous, une ligne de conduite. Vous avez peut-être entendu parler d'un jeu scénique sur Jésus, et des jeunes de ma paroisse, puisque je suis dans l'enseignement à Paris et à Lille, mais aussi en paroisse, m'avaient fait découvrir le CD qui était produit à cette occasion, avec l'un des plus beaux chants dans ce CD, avec le refrain « La bonne nouvelle, c'est lui », c'est entendu Jésus, « La bonne nouvelle, c'est nous ». J'ai trouvé magnifique que des musiciens, chanteurs contemporains reprennent finalement ce qui est le cœur du message, à savoir que l'évangile, c'est Jésus, afin que cet évangile, ce soit nous, de plus en plus, dans la mesure où nous sommes attentifs à ce qui est contenu dans l'évangile. En développant quelques réflexions maintenant, il y a pour moi quelque chose d'immanquable. Je ne peux pas répondre au sujet qui m'a été confié sans m'impliquer moi-même. En effet, la parole de Dieu est ma joie, mais aussi mon tourment. Joie de la recevoir et de la communiquer, tourment devant l'immensité du mystère. Je ne possède pas la parole, elle m'échappe. J'essaie de la saisir. La responsabilité aussi de la rendre accessible, recevable, et il y a un signe qui ne trompe pas, pour moi c'est un signe qui est le signe vraiment majeur de l'annonce de l'évangile, du signe du royaume. Vous connaissez comme moi, c'est que la bonne nouvelle est annoncée au pauvre. J'ai la joie de vivre cela et de vivre encore certains moments. Deuxième aspect aussi, pour moi qui est immanquable, c'est que je dois m'impliquer dans ce que je dis, mais aussi répondre à ce qui m'a été demandé aujourd'hui en cherchant aussi la profondeur d'une expérience et recevoir d'autres témoins, une vision plus large, d'où un développement théologique, puisque c'est aussi un peu mon métier, je me trouve entre les deux, comme curé de paroisse, un peu éducateur de la foi, accompagnateur aussi de communautés et de personnes, et puis aussi guidant dans l'intelligence de la foi. Cela nous donne accès d'ailleurs à ce que nous ne pouvons pas trouver par nous-mêmes, par notre propre expérience. Pour préciser davantage de quoi il va être question, à la lumière du Concile Vatican II, comment l'Église catholique conçoit la lecture de la Bible et la compréhension de l'Évangile. C'est ainsi que les organisateurs ont précisé la demande, et l'imprudence de répondre, et la réalisation sera un peu inachevée par certains côtés, j'étais malade ces jours-ci, des soucis de santé, bref. Je fais l'expérience aussi, que la grâce de Dieu se déploie dans la faiblesse, comme vous le savez. Trois points pour guider notre réflexion. Premièrement, la lecture de la Bible dans la tradition catholique. Deuxièmement, Vatican II, un chemin de conversion au Christ, parole vivante. Et troisièmement, mise en œuvre au pluriel, frein, toujours au pluriel, et nouveaux défis également au pluriel. Premièrement, la lecture de la Bible dans la tradition catholique. Les plus anciens ont entendu dire, mais ça se rencontre également chez les plus jeunes, que chez les catholiques, la Bible aurait été interdite. Lire la Bible, il paraît que c'était dangereux, parce que, évidemment, c'est l'affaire des protestants, donc ça fait glisser du côté qu'il ne faut pas. Et puis, de toute façon, il y a des drôles d'histoires dedans, et je me souviens d'un étudiant très scandalisé lorsque il a appris que le roi David, qui a commis un certain nombre de choses pas très recommandables et plutôt meurtrières avec Uri le Hittite, comme vous le savez, réalisant que ce même David, c'est celui qui est l'auteur, on lui attribue un certain nombre de psaumes. Et je vois encore comment, mais c'est pas possible, lui qui a fait tant de choses, c'est lui aussi les psaumes, il est complètement troublé. Bref, il y a des histoires qui ne sont pas très reluisantes, qui sont même d'ailleurs insérées, vous le savez, dans la généalogie de Jésus. C'est-à-dire que cette histoire assume un nombre de choses. Vous le savez aussi, on peut se tromper de sens en lisant seule la Bible. Et il y a eu des réflexes de peur, surtout au début du XXe siècle, c'est la fameuse crise moderniste, et qui a conduit à certaines restrictions locales, mais il y a eu vraiment très peu d'interdictions générales, juste deux, au XVIe siècle, je donnerai des précisions tout à l'heure. On a eu donc l'impression que la Bible était depuis longtemps absente des milieux catholiques, ce qui est faux quand on regarde l'histoire. Donc je présente quelques traits maintenant dans ce deuxième point, la première partie. Quelques témoignages en remontant le fil du temps, comme certaines généalogies, nous parlons du plus près pour aller au plus ancien. Au cours du XXe siècle, il y a eu plusieurs grandes entreprises de traduction catholique. La Bible du cardinal Liénard, c'est pas lui qui l'a traduite, mais l'a couvert de son autorité, 1950, faisant suite à la Bible du chanoine Augustin Crompon, Cocorico, c'est un prêtre du diocèse d'Amiens, né à Franvillers, pas loin de là où j'exerce, et c'était la première traduction catholique en français réalisée à partir des originaux hébreux et grecs, c'était en 1904. Donc c'est réalisation intéressante et qui a largement circulé. Soulignons aussi l'intervention du pape Pie XII en 1943 pour encourager aussi les études bibliques, pas simplement d'ouvrir la Bible, mais de travailler, comme on dit, l'exégèse, avec une encyclique importante. Ces études existaient déjà et elles ont contribué à un profond renouveau biblique dans l'Église catholique. Avec ces études, il y avait aussi tout un réseau pour encourager à la base une appropriation, une découverte de la parole de Dieu. Et j'ai eu connaissance par ma famille, puisque mes grands-parents en faisaient partie, d'une archiconfrérie de l'Évangile dans la vie. C'était au début du XXe siècle que ça existait. Et le service actuel Évangile et Vie est la suite d'une association qui a été fondée en 1891, l'archiconfrérie de l'Évangile. C'est dire que dans la vie de l'Église catholique, il y a un souci de l'Évangile, des Écritures. Et si on remonte encore, poussons d'un cran, allons, machine à remonter le temps, 18e siècle, l'exégèse critique, c'est-à-dire de la critique historique, a été amorcée par un médecin de Montpellier, bien catholique, Jean Astruc, en 1753. Avec les conjectures sur les mémoires dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Donc c'était la première fois qu'il y avait une étude un peu critique des sources historiques. Et plus généralement, au XVIIe et XVIIIe, la Bible faisait partie de la culture du monde catholique et plus largement de la société. Pensez au théâtre de Racine et à tant d'autres œuvres littéraires. La Bible de Port-Royal, la fameuse Bible de Le Maître de Sacy, est publiée en 1693 dans la belle langue française du grand siècle avec ses limites, puisque selon cette Bible, après l'Annonciation, on apprend que Marie partit en diligence. Ce n'est pas le moyen de transport, évidemment, mais c'est en hâte. Les mots ont changé de signification, comme vous en trouvez bien. Plus haut encore, si je ne vais pas remonter comme ça jusqu'au déluge, mais en 1250, il y a eu une Bible copiée pour Saint-Louis, la fameuse Bible d'Acre, qui est signalée comme la première Bible en langue vernaculaire ayant circulé en France. Signalons que la nouveauté de la réforme ne sera pas de traduire les Écritures en langue dite vulgaire, mais de le faire à partir des originaux hébreux et grecs. Alors, troisième point, d'où vient cette image persistante d'un catholicisme sans Bible? C'est pour dire que, où je veux en venir, c'est que Vatican II n'est pas, je dirais, la découverte un beau jour de l'existence de la Bible, mais il y a tout un passé qui est assez mélangé et qui affleure encore aujourd'hui. Je résume à grands traits la réflexion d'un grand bibliste jésuite, Pierre Gibert, une image donc persistante d'un catholicisme sans Bible. Pourquoi? Cela est dû à une évolution au moment de la Révolution française où l'Église a été saignée à blanc, l'Église catholique, et avant cela, plus grave d'une certaine manière, elle était très faible au niveau de sa pensée, de ses pratiques. Après la Révolution, avec un encadrement, on comprend bien, diminué, on a recommencé, remis en ordre les choses à partir du plus simple, du plus facile, des pratiques de piété et l'instruction des enfants. d'où la multiplication de catéchismes aux préoccupations dogmatiques et morales, je cite le titre le plus souvent utilisé. Évidemment, l'aspect spirituel et biblique était laissé de côté, comme moins utile. Dans ce contexte, la Bible n'était pas interdite, elle devenait inutile. J'en viens ici à une petite parenthèse. Il y avait eu deux mesures d'interdiction de la part de Rome, c'était en 1559-1564, et cela visait l'impression et la possession de Bibles en langue vernaculaire, sauf autorisation spéciale, en réaction à la réforme qui était dans le démarrage. Donc il y avait une prise de position, mais qui en fait n'a pas eu de durée, parce qu'on voit assez rapidement qu'un grand nombre de Bibles ont été diffusées, pas simplement une Bible complète, mais beaucoup de Bibles, même j'en ai une très impressionnante, au format poche. Il avait déjà un format poche au XVIIe siècle. Et c'était la Bible qui avait été utilisée d'ailleurs par un soldat, il avait ça dans sa poche, à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est dire qu'il y avait une diffusion déjà dans les rangs catholiques. Cependant, cette Bible semblait moins utile immédiatement parce qu'on cherchait surtout des certitudes, une protection contre les erreurs, les déviations et ce qu'il fallait pour croire et aboutir rapidement à une bonne pratique. Alors, pensons plus près de nous, dans les rangs catholiques, au-delà, au grand succès du catéchisme de l'Église catholique quand il est sorti en 1992. À ce moment-là, on en trouvait des piles monumentales, des palettes dans les supermarchés, parce que tout le monde était intéressé, intrigué par cette nouveauté, entre guillemets, mais aussi par la fonction d'un catéchisme, c'est-à-dire d'un recueil de choses sur lesquelles on va prendre pied. Le texte biblique, à la différence d'un catéchisme, apparaissait trop difficile à comprendre avec des contradictions apparentes, puisqu'il nous place devant notre condition historique et aussi la condition historique de la révélation de Dieu. Et c'est là-dessus que la mutation va être totale avec le Concile Vatican II, qui va réinstaurer, justement, cette dimension historique de la révélation, et que ce n'est pas un paquet de vérités qui tombent du ciel et qui sont comme aidées par des éléments de la tradition, mais un processus vivant et interpersonnel. S'y ajoutera de plus une question d'autorité, car le catéchisme catholique est un instrument de pouvoir, pour parler clair, garanti par l'autorité du pape. Et on aura donc, en quelque sorte, une Bible dans les rangs catholiques à notre portée, mais une Bible, en quelque sorte, sous contrôle de l'Église, garantie par l'Église au point d'être instrumentalisée comme une réserve de vérité à croire. Je caricature un peu, il faudra mettre des nuances, mais c'est pour faire simple. À l'inverse, dans les rangs catholiques, protestants, l'Église est plutôt présentée comme venant de la Bible, façonnée par la Bible. Là aussi, il faut mettre des nuances, mais il y a eu comme, je dirais, une opposition un peu simpliste entre l'un et l'autre. Venons-en à la deuxième partie, et chose qui est plus importante, plus intéressante, avec le Concile Vatican II. Dans cette deuxième partie, que j'intitule « Un chemin de conversion au Christ parole vivante », regardons tout d'abord l'événement que fut Vatican II avant d'approcher un certain nombre de textes. Le pape Jean XXIII a eu plusieurs grandes intuitions prophétiques. Le bon pape Jean, élu pape à l'âge de 76 ans, beaucoup disaient que ce serait un pape de transition, sans grande originalité, et contre toute attente, moins d'un an après son élection, il annonce, c'était le 25 janvier 1959, la convocation d'un concile œcuménique, c'est-à-dire des évêques catholiques du monde entier, avec deux préoccupations: rendre l'Église davantage missionnaire par une plus grande attention au monde contemporain et progresser vers l'unité des chrétiens. Il avait été nonce, c'est-à-dire représentant du Vatican en Bulgarie, donc il avait une expérience œcuménique déjà assez développé, une attention à cela. Et donc, l'annonce du pape Jean XXIII est intéressante à ce double titre, c'est-à-dire c'est l'évangile, enfin, comment faire en sorte que l'évangile soit davantage dans la société d'aujourd'hui, donc, en quoi ça concerne notre sujet aujourd'hui, et aussi de progresser vers l'unité des chrétiens. Une anomalie est à souligner dans son discours pour l'ouverture du concile. Le bon pape Jean ne suit pas le texte préparé pour lui par la commission voulue et il balaye déjà une présentation étroite des vérités contenues dans le dépôt de la foi. C'est le texte qui avait été préparé et qui est publié en latin et qui mentionne les vérités contenues dans le dépôt de la foi. C'est-à-dire qu'on a des éléments de doctrine et qui sont comme transportés au fil du temps. Et dans ce qu'il va dire spontanément, il va changer et avoir une présentation qui va être une présentation plus dynamique. Donc, il est assez libre de tout ça. Mais surtout, il instaure un nouveau rite pour chaque séance solennelle du Concile. Un évangéliaire est apporté en procession et placé sur un trône en hauteur pour signifier que c'est le Christ lui-même qui préside. Et les évêques cherchent à l'écouter. Donc, renversement complet, ce ne sont pas les évêques qui disposent, de la Bible, des évangiles, comme étant un moyen au service, de la diffusion de la vérité catholique, mais c'est de se placer à l'écoute du Christ qui nous parle par les Écritures. Nous souvenons de cette belle phrase de Saint Jérôme au IVe siècle qui dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Donc c'est une manière de dire, bien que les évêques ne sont pas dans une espèce d'assemblée parlementaire, mais ils cherchent à se mettre à l'écoute du Christ dans l'Esprit Saint pour discerner, pour reconnaître ensemble quels sont les chemins pour l'Église aujourd'hui. C'est ce que résume la première phrase de la Constitution sur la révélation divine. En écoutant religieusement, en proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint-Concile fait sienne cette parole de Saint-Jean, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est donc le tout début, les premières lignes de ce document majeur de Vatican II sur la révélation divine et qui exprime qu'est-ce qu'il en est de l'attitude de l'Église catholique aujourd'hui, puisque évidemment ce texte continue de nous guider. Cette intuition, nous essayons de la déployer. Mais avant d'arriver à un texte voté, ça viendra seulement à la fin du Concile. Il y a eu un moment de crise. Le schéma préparatoire n'avait pas le nombre de voix pour être accepté, mais pas non plus le nombre requis pour être rejeté. Il y avait comme un entre-deux. Et c'est le pape Jean XXIII qui intervient pour retirer le texte et le confier à une commission. Et ce qui a fait dire à un observateur protestant qu'il commençait à croire à l'infaillibilité pontificale. Puisqu'il était sagement, selon pape Jean, sagement inspiré d'éviter un débat qui aurait été peut-être un plus gilet, en tout cas stérile, et le confier à une commission. Alors, vous savez, quand il y a un problème quelque part, on crée une commission et puis on se débrouille. Bon. En fait, c'est plus futé que cela, puisque cette commission va être placée sous une double présidence, les cardinaux Ottaviani et Béat. Le premier étant de la congrégation pour la doctrine de la foi, donc celui qui regarde à assurer la continuité de la bonne doctrine, et le cardinal Béat, qui est secrétaire pour l'unité des chrétiens, et ce secrétariat venant d'être créé en 1960. Alors ça aussi, c'est un trait de génie du pape Jean XXIII d'avoir créé ce secrétariat pour l'unité des chrétiens, parce que pour lui, il ne fallait pas attendre la fin du Concile pour débarrer quelque chose. Et nous vivons toujours de cet élan. ce cardinal était aussi bibliste, ce qui pouvait aider. Il faudra un long travail pour débloquer la situation et des théologiens protestants vont jouer un rôle déterminant. Officiellement, ils étaient observateurs, mais de fait, ils vont être les artisans de ce grand texte majeur qu'on appelle Dei Verbum, ce sont les mots latins, et qui désignent donc ce document de Vatican II. Ces théologiens, ce sont Roger Schütz et Max Turian, de la communauté de Thésée. Il y a eu d'autres observateurs protestants comme Oscar Kuhlmann et d'autres encore. Dei Verbum pose d'emblée le fait de la révélation biblique comme un processus dynamique, en dépassant une perspective simplement intellectuelle et aussi défensive. C'est l'initiative de Dieu qui manifeste sa bonté, comme un débordement d'amour. Pour résumer, s'il fallait retenir les points principaux de Vatican II, tout d'abord, c'est le recentrement sur la personne du Christ, dans la ligne de la lettre aux Hébreux, les premières lignes de la lettre aux Hébreux, après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il établit héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes, etc. Le Christ révèle qui est Dieu et il révèle également la grandeur de l'homme. Je cite un passage du Concile Vatican II qui est comme une phrase clé. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et il lui découvre la grandeur de sa vocation. Et pour moi, c'est une intuition qui est géniale et féconde, c'est-à-dire qu'il y a dans la révélation biblique un éclairage sur la nature profonde de l'homme. Autrement dit, ce que nous découvrons à travers la Bible, ce n'est pas simplement ce que Dieu a fait dans l'histoire du salut, mais ce qu'il continue de réaliser, quelle est son attitude à l'égard de toute personne humaine. J'en prends juste un exemple. C'est comment, à travers un accompagnement biblique, pour des jeunes qui se préparent au mariage, ben ils découvrent pas simplement des beaux textes pour leur célébration, mais comment Dieu fait alliance et quel est ce Dieu de l'alliance. Et comment ça rejoint aussi une expérience très profonde. Je prends juste Genèse 12, avec l'appel d'Abraham, Abraham qui va quitter ses sécurités pour suivre ce que le Seigneur lui indique. Bien oui, ça veut dire aussi la foi, la confiance. Et ça parle très fort pour les jeunes, par exemple, qui se préparent au mariage. Donc, révélation dans le Christ, qui est Dieu, mais également ce que nous sommes appelés à être. La révélation est présentée comme le déploiement du mystère au sens paulinien, et nous redécouvrons bien ce que signifie en profondeur le mystère. Ce n'est pas une sorte de théorème abstrait, mais c'est cette histoire de la révélation de Dieu dans notre monde. Une analogie de la parole humaine va nous aider, la conversation, et nous souvenons que cela figure dans le livre de Baruch, Dieu qui s'entretient avec les hommes et les invite à partager sa propre vie. Par conséquent, il n'est pas juste de dire que nous interrogeons l'Écriture, normalement c'est l'inverse, nous devons nous laisser interroger, déplacer, remettre en question, mais aussi éclairer, guider. La révélation de Dieu a pour but ultime la communion. Communion avec Dieu, communion les uns avec les autres, et c'est le début de la première lettre de Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains touchaient du verbe de vie. Nous vous l'annonçons. C'est évidemment une manière de tout résumer. J'en viens à la troisième partie, qui est sans doute la plus attendue, et qui va ressembler à une série d'exemples, sans être exhaustif, parce que, évidemment, ça demanderait du temps, et c'est peut-être pas nécessaire là, dès maintenant, surtout dans un début d'après-midi où il n'est pas toujours facile de suivre un enseignement au moment de la digestion. Avec cette troisième partie, mise en œuvre, frein et nouveaux défis. Rappel, tout d'abord, nous avons besoin de points d'application. La parole doit prendre chair, devenir concrète dans la ligne de ce que nous avons entendu au début. Notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit-Saint. Autrement dit, c'est quelle répercussion, quelle fécondité de l'Évangile, de la parole de Dieu en nos vies. Un premier point d'application dans les rangs catholiques de mise en œuvre, c'est dans la liturgie. La Bible n'a pas une fonction décorative ou justificative de nos célébrations, mais est au cœur de la prière communautaire de l'Église. Et désormais, depuis Vatican II, les lectures bibliques du dimanche sont organisées sur 3 années, un cycle sur 3 ans, au lieu d'une seule auparavant, avec une place plus importante à l'Ancien Testament. Et ce cycle de lecture est en partie partagé avec nos amis protestants de l'EPU. Et c'est une joie de pouvoir suivre un peu le même cursus. L'homélie, normalement, doit manifester la richesse et aider son application. Et un progrès est toujours à faire dans les rangs catholiques. L'Évangile n'est pas fait pour être seulement expliqué, mais pour être appliqué. Pour aider à cela, il y a une large diffusion des missels pour les fidèles. Ça a commencé avant Vatican II, mais c'est encore multiplié depuis avec les mensuels de prière. Il y a 3 titres principaux qui tirent un grand nombre d'exemplaires. Je ne détaille pas. Deuxième mise en œuvre, c'est à travers la catéchèse, avec un recours à la dynamique de la révélation. Il y a un essai qu'un certain nombre d'entre nous catholiques connaissent avec le fameux recueil Pierre Vivante. Et avec cette révolution qui est mal passée, qui a été corrigée ensuite dans la 2e édition, où la révélation biblique était présentée à partir de la sortie de la mer Rouge, pour ensuite arriver au texte de la création du monde, Genèse 1, Genèse 2. Parce que cela correspondait, au travail biblique du temps. Or, il a semblé que d'un point de vue pédagogique, ce n'était pas très facile. Bref, il y a différentes manières de chercher à mettre en œuvre dans la catéchèse bien ce que nous recevons. Je prendrai ici un exemple au point de vue de la catéchèse parce qu'il me semble tout à fait éclairant. Là, je parle d'expérience. J'ai rencontré une fois, à la sortie d'une messe où il y avait pas mal d'étudiants, des jeunes Chinois qui me demandent dans un français hésitant, est-ce que vous pourriez nous parler de Jésus ? Oui. On échange nos adresses, je les rencontre, on passe la soirée ensemble, un repas, et je découvre assez rapidement que le chemin ne sert pas de parler d'abord de Jésus, mais puisqu'ils sont complètement étrangers au christianisme, de commencer par ce parcours biblique et de parcourir les Écritures. En fait, c'est tout simplement le schéma de la catéchèse pratiqué par saint Augustin à la fin du 4e siècle, qui consiste à présenter quelques passages de la Bible pour découvrir à travers la Bible comment Dieu se rend présent et nous appelle à le suivre. Et de fait, ça a été une série de rencontres passionnantes. Cela, pour dire, mise en œuvre Bible dans la catéchèse, nous retrouvons ce qui a été au premier temps de l'Église et que nous avions un peu oublié. Petite précision au passage, si un catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui, il fait suite au catéchisme du Concile de Trente, et si un catéchisme du Concile de Trente, publié au XVIe siècle, c'est parce qu'il y a eu auparavant les catéchismes de Luther. Merci à nos amis protestants, parce que ça a été une bonne émulation. À la différence, évidemment, qu'il y a une inspiration biblique qui est très fort présente dans le catéchisme de Luther, et qui est venu ensuite, qui a largement fait école dans ce que nous pratiquons dans l'Église catholique. Troisième point de mise en œuvre, le développement de l'animation biblique. Cela existait déjà, mais il y a tas d'initiatives catholiques pour promouvoir des groupes bibliques et Dieu merci, il y a même des groupes bibliques écuméniques et dans lesquels il y a, je crois, une belle émulation, c'est-à-dire partir de traditions différentes, nous tournons vers la même source. Quatrième point, la redécouverte de la Lectio Divina, un mot peut-être un peu étrange. C'est littéralement lecture divine, je préfère dire lecture divinisante, lecture priante des Écritures pour découvrir, en lisant les Écritures, comment la parole que nous lisons par cet acte de lecture, nous y appliquons notre intelligence, nous conduit à reconnaître ce qui nous est donné littéralement et au sens historique, mais aussi d'accéder au message de foi. Et ce message de foi nous conduisant aussi à la prière, ce qui donne un schéma en trois ou quatre temps, à savoir de la lecture, de l'oraison réflexion et de la contemplation, c'est-à-dire ce temps où nous pouvons nous tourner plus directement vers le Seigneur. Cela est pratiqué désormais personnellement ou en groupe, et à travers cela, c'est une méthode simple, mise en œuvre de multiples façons. Des jeunes et des moins jeunes trouvent une orientation de vie et comment mieux vivre cela, la parole de Dieu. Les freins, je ne serai pas trop long parce que c'est un petit peu accablant et navrant, mais reconnaissons qu'ils restent un peu partout, aussi bien dans les rangs catholiques qu'ailleurs, une certaine paresse, parce que cela demande un certain effort d'apprivoisement, parce que la Bible ne parle pas immédiatement notre langage, même s'il y a d'excellentes traductions en français courant ou en français fondamental. Cela demandera toujours un certain apprentissage, en tout cas une familiarité avec cet univers biblique, même s'il y a des outils, les outils ne font pas le travail à notre place. Nous avons besoin de nous entraider pour cela et de secouer une torpeur, une paresse. J'avoue pour ma part que si un jour je me suis mis à lire sérieusement la Bible, c'est parce que j'étais piqué au vif par des témoins de Jéhovah qui avaient été reçus par mes grands-parents où je me trouvais en vacances et qui quand même... Ils ont l'air de connaître la Bible alors que leur truc est tordu. Moi, qui suis catholique, j'en connais quand même beaucoup moins. Donc, le soir même, j'ai ouvert ma Bible, j'avais quand même avec moi, et j'ai commencé à la dévorer. Nous avons besoin d'être parfois un petit peu réveillés par des événements comme ça. Autre frein, et là, il est plus pervers, ce frein, c'est celui du divertissement. C'est-à-dire, il y a un tas de choses qui nous distraient et qui nous éloignent de la source vive, et en particulier avec le numérique aujourd'hui, on peut surfer sur un tas de choses et délaisser ce qui est la source vive pour se diriger vers des citernes ardées, comme disait le prophète. Venons-en aux nouveaux défis. Il y a dans la tradition catholique quelque chose d'assez original, c'est que nous ne sommes pas en prise directe avec la Bible, y compris dans une tradition, mais il y a comme tout un système, on peut dire, de réflexion, et ce serait un sujet à part qui serait de faire une rétrospective de ce qu'il y a eu depuis Vatican II concernant la parole de Dieu, et un intervenant catholique peut venir avec une valise pleine de documents pontificaux ou romains, ou même nationaux, qui développe cela. C'est une spécialité catholique, mais je ne veux pas vous en accabler, surtout en la, même s'il y a un intérêt à le faire. Je mentionne cependant un ouvrage qui représente là une innovation majeure, on peut dire, dans la réception de Vatican II. Il s'agit d'un document de la Commission biblique pontificale intitulé « Bible et morale, quels critères pour discerner ?». Ce document a été publié en 2008 pour la langue originale et en français en 2009. Et c'est pour dire, voilà, nous nous référons aux Écritures et comment, de manière intelligente, tirer de l'Écriture des points de repère pour notre agir aujourd'hui, sans tomber dans le fondamentalisme d'une part, et d'autre part, sans plaquer sur l'écriture, finalement une doctrine avec laquelle finalement on viendrait chercher des cautions dans l'écriture, on saupoudrerait la doctrine de quelques versets pour justifier ce que l'Église aurait décidé d'elle-même. Donc il y a différents critères qui sont donnés, genre critères de convergence, critères aussi de progression, parce que entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas la même chose, et puis dans le Nouveau Testament lui-même, on voit qu'il y a différents courants. Bref, nous sommes en présence d'une révélation vivante. Je n'en dis pas plus, mais c'est pour le signaler au passage. Un autre défi, c'est celui de l'animation biblique de toute la pastorale, et là nous sommes encore, excusez-moi, un petit peu à la ramasse dans les rangs catholiques. Parce que il y a eu en 2010 un synode un peu avant, mais il y a eu la publication d'une exhortation au Verbum Domini en 2010 pour encourager un ressourcement biblique dans toute la vie de l'Église catholique. Mais d'autres peuvent en tirer profit aussi. Cela fait suite donc à une rencontre internationale d'évêques, délégués du monde entier, avec des experts, dont un certain nombre d'experts orthodoxes, mais aussi protestants. Et en particulier une pasteur évangélique, la Valérie
Duval Pujol,
merci, qui est intervenue et dont l'intervention a été très appréciée. Donc c'est dire qu'il y a un travail œcuménique aussi dans ces rencontres. Et ce qui s'en dégage, et là nous sommes encore, je dirais, au commencement, c'est pas simplement de promouvoir des groupes bibliques, mais c'est aussi, sans lâcher cela, de favoriser une animation biblique de toute la pastorale, c'est-à-dire de nous remettre dans cet élan de la révélation divine. En nous souvenant de ce que disait Saint Grégoire le Grand, au début du 7e siècle, les paroles divines grandissent avec celui qui les lit. Autrement dit, la parole de Dieu est pour la croissance, avec aussi un risque qui est de chercher dans la parole de Dieu de quoi immédiatement orienter notre agir et de faire passer en quelque sorte les œuvres avant la foi. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est qu'il y a eu une tendance catholique qui a été de se précipiter à partir de l'écriture tout de suite sur ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les œuvres, et en négligeant ce moment de la foi, c'est-à-dire de cette rencontre avec le Dieu vivant qui d'abord transforme notre être pour nous habiliter à agir autrement. Bref, il y a eu historiquement, à partir de Saint Ambroise, une inversion dans la manière de faire et qui a ouvert à cette protestation salutaire de Luther qui a rétabli cette primauté de la foi, et c'est ce que dans les rangs catholiques nous essayons de cultiver. C'est là où il y a donc une animation, quand on dit animation biblique de toute la pastorale, cela veut dire ça au fond, de reprendre la dynamique de la parole de Dieu sans céder au penchant de la moralisation. Si la Bible inspire une réflexion morale, elle n'est pas faite d'abord comme un livre de morale, mais comme un livre de foi. Et j'en viens au troisième et dernier point. Pour nous, c'est le beau risque de s'exposer à un salutaire bouleversement. La conversion que nous annonçons est d'abord la nôtre. Et vous savez sans doute que le pape François ne cesse de nous presser en ce sens, de réaliser une conversion évangélique, qui consiste à se mettre de manière plus résolue à l'écoute du Seigneur qui nous parle à travers les Écritures, qui nous parle aussi à travers d'autres moyens. La Bible, en conclusion, j'en viens à la conclusion, nous dit plus souvent ce que nous sommes en profondeur, ce que nous devons être, plutôt que ce que nous devons faire. Elle n'est pas un livre de recettes, ni le téléphone de Dieu, comme disait un théologien un peu malicieux. Une parole de Dieu qui résiste, qui me dérange, a autant de choses à me dire qu'une parole qui me touche et qui rejoint ma sensibilité immédiate. comment la parole trouve un écho en moi, en nous. C'est vrai que la Bible donne du travail et du souci aux spécialistes, mais n'oublions pas que ces trésors sont largement ouverts aux tout-petits et à ceux qui leur ressemblent. Il y aurait lieu ici de donner quelques exemples de ce qu'on appelle les communautés de base en Amérique latine, dont, je dirais, le moteur principal n'est pas une revendication politique, mais c'est bien une dynamique de la parole de Dieu qui conduit à d'autres comportements. Bref, et je n'étais pas si bref que ça, j'ai cherché à dire l'essentiel sans masquer la complexité, puisque nous sommes en présence du mystère de Dieu qui nous parle à travers les Écritures. Merci de votre attention.
Alors, nous avons laissé quelques instants pour formuler les questions qui se posent à vous suite à cet exposé. Vous avez reçu en arrivant des petites feuilles blanches et vous pouvez noter vos questions afin de les mémoriser. Elles seront reprises à l'issue de l'intervention de Thierry Doyer. Alors, pendant ce temps de pause, de quelques petites minutes, deux minutes, nous aurons un petit morceau musical.
Peut-être se souvenir de deux, trois éléments.
Qu'est-ce que veut dire par ailleurs le mot évangile ? Évangile, je crois que dans la réflexion actuelle, on a fortement tendance à distinguer entre l'évangile avec un petit e, une minuscule, et l'évangile avec un grand E, et je crois qu'on a fortement raison. Pourquoi ? Parce que l'évangile avec ce grand E ne se concentre pas dans les quatre évangiles. Ce serait bien trop simple. Et je vais chercher, au cours de cet exposé, à vous faire sentir qu'en effet, beaucoup des éléments qui constituent l'évangile avec ce grand E se trouve dans d'autres livres bibliques que les seuls quatre évangiles. Mais il me semble que notre question, c'est de chercher à situer cet évangile dans la société contemporaine. Et en introduction et dans ce deuxième point, je vais essayer de vous énoncer 9 caractéristiques de l'époque contemporaine. Bien sûr, il y en a sûrement un 10e, un 11e, un 12e peut-être même, mais j'ai essayé plutôt de les regrouper dans des catégories un peu homogènes. Première caractéristique, première réalité, j'aurai le temps de le développer, j'espère, par la suite, les violences de toutes sortes. Je crois que décrire la réalité contemporaine, c'est aussi prendre en considération ces violences. Deuxième point, les différents deuils que nous avons à vivre et à surmonter. Des deuils qui sont à la fois liés au décès, mais aussi à nos échecs. Et je crois que ça a une importance considérable de savoir répondre justement à ce désarroi contemporain, à cette, on va dire, sinistrose pour aller un peu rapidement. Et je crois qu'une des questions sur lesquelles il nous faut prendre le temps d'accueillir l'Évangile, c'est bien ces différents deuils. Troisième question, la compréhension de la vie que nous avons à retrouver. Dans la contemporanéité, on sait bien que beaucoup de personnes vivent des instants déstructurés les uns par rapport aux autres. Et je crois que nous avons intérêt à percevoir notre histoire à plus long terme. J'entendais tout à l'heure à la radio Michel Serres parler de la patience, et cette patience ne peut avoir lieu que sur le long terme. Elle ne se construit, et un certain nombre d'éléments caractéristiques de l'Évangile s'élaborent dans notre esprit et dans notre cœur avec le temps, hein, et non pas de manière immédiate. Quatrième question, est-ce que l'économie est comprise dans son lien avec les relations sociales ou est-ce qu'elle est isolée dans une compréhension étroite ? Cinquième point, précisément parce que nous sommes envoyés dans ce monde, il me semble qu'on peut se poser la question, la compréhension de l'État. L'État, y compris, et dans notre société, je pense que ce n'est pas totalement inutile, dans ses relations avec la personne humaine et avec les religions. Sixième point, le rôle de la loi. Pardonnez-moi, j'ai un gros défaut, c'est que je suis juriste, et j'essaye de raisonner aussi sur ces questions-là. Septième, là aussi, la compréhension de la démocratie. J'avoue que ça m'agite depuis un tout petit peu, deux ou trois décennies. Est-ce que la démocratie est participative ou est-ce qu'elle est seulement représentative ? En langage clair, est-ce que nous nous contentons de déléguer notre responsabilité aux élus ou est-ce que nous participons à cette démocratie en étant actifs dans ce processus démocratique ? Huitième point, la compréhension de l'être humain. Est-ce que cet être humain est décidément un individu ? Ou est-ce qu'il est au contraire un être qui ne vit vraiment qu'en étant en relation confiante et aimante avec les autres ? Et enfin, neuvième point, les conséquences pour l'Église du Christ de ces événements contemporains que sont la démarche œcuménique et les relations interreligieuses. je les distingue personnellement très fortement. Mais dans une première partie, je vais prendre le temps de nous aider peut-être un peu plus à voir ce que veut dire ce terme d'évangile. Ne serait-ce que parce que trop souvent, nous nous contentons de nommer ce terme, d'utiliser ce terme évangile de manière relativement sèche. Je crois que l'évangile a besoin d'être mieux perçu. Et je vais donc en donner provisoirement une définition un peu courte, qui ne fait que trois lignes. Pour ceux qui me connaissent, ça peut être pire et bien plus long. Donc, vous voyez, j'essaye de me discipliner en faisant des phrases relativement courtes. L'évangile est une parole qui a été proclamée et continue de l'être pour permettre aux êtres humains d'accéder à un univers large et ample. Univers qui est offert à notre réflexion afin que nous puissions nous y engager. Je crois que cette parole, deuxième point, se réfère à un homme, Jésus de Nazareth. Et il se réfère fortement dans la mesure où, pour les auteurs bibliques, pour les auteurs du Nouveau Testament, Jésus de Nazareth a été cet homme qui a vécu tout au long de sa vie dans cette relation confiante et aimante, que ce soit avec Dieu, son Père, ou avec les êtres humains, ses frères. Et je crois que ça n'est pas indifférent pour accueillir, recevoir, comprendre et vivre l'Évangile. Alors, quelle est la signification de ce terme ? Je crois qu'il faut nous rappeler que peut-être il y a une indication dans l'Ancien Testament, il y en a même deux, me semble-t-il, qui sont précieuses pour comprendre ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la reprise d'une promesse qui a été faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations. Donc Genèse 12, verset 3. Promesse qui a été reprise, si j'ose dire littéralement, en 22, verset 18. Et puis il y a une autre surprise dans l'Ancien Testament, et c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 52, verset 7, voilà une phrase qui me semble tout à fait intéressante parce qu'elle permet d'accueillir un certain nombre d'éléments constitutifs pour qu'il y ait évangile. Comme ils sont les bienvenus, au sommet des montagnes, les pas du messager qui nous met à l'écoute de la paix, qui porte un message de bonté, qui nous met à l'écoute du salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et voilà, me semble-t-il, les termes qu'il nous faut garder présents à l'esprit et les lier les uns aux autres pour déjà anticiper ce qu'est l'Évangile. Le messager, je les mets dans le texte, dans l'ordre du texte et non pas dans un ordre théologique. On pourrait reprendre ça, mais ça nous entraînerait peut-être un peu trop loin. L'écoute de la paix et du salut. Le message de bonté et puis la proclamation adressée à Sion, ton Dieu règne. Cela veut dire que des éléments qui sont déjà donnés dans la première alliance sont utiles pour comprendre la nouvelle alliance. Et ça, j'y suis personnellement, et je crois qu'on est un certain nombre dans la salle à y être particulièrement attachés. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accueillir la bonne nouvelle sans avoir présent à l'esprit cette alliance, à la fois déjà présente dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans la première alliance, et développée dans la nouvelle alliance. Et ça veut dire aussi que l'Ancien Testament, c'est une expression fautive par certains côtés, dans la mesure où c'est le premier testament, il n'est pas dépassé. Et ça, je crois que c'est aussi un héritage auquel nous sommes, nous protestants, particulièrement sensibles, mais il me plaît de remarquer régulièrement que beaucoup de catholiques y sont également sensibles, qui montrent bien que les fruits du mouvement œcuménique ne sont pas ridicules. Passons maintenant au Nouveau Testament. Et dans ce Nouveau Testament, je mets en premier point, parce qu'il me semble que c'est un élément qui est important, avant Jésus, si j'ose dire, c'est dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc. Et vous allez voir qu'on a besoin de se familiariser avec l'expression. C'est Gabriel qui s'adresse à Zacharie, « J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. » C'est cela que veut dire le verbe grec. Ah oh non, je ne vais pas le faire. Il vaut mieux que je sois prudent, parce que je ne l'ai pas noté dans mon texte. Tu le cherches. Merci, Jacques. Enfin, oui, mais justement, je ne veux pas être piégé par ça. On transcrit en français le verbe en question, évangéliser. Et du coup, ça nous piège. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de garder l'idée, annoncer la bonne nouvelle. C'est bien plus riche, me semble-t-il. Annoncer une bonne nouvelle, c'est donc, proprement parler, évangéliser. Bon. Et puis, quelques décennies après, Jésus, commençant son ministère public, va dire, il va proclamer, proclamer la bonne nouvelle du règne. Tiens. Retour à Ésaïe, par certains. Donc ça, c'est dans Matthieu 4, 23, et c'est repris en 9, 35. Et Jésus, confronté à la demande des disciples du Baptiste, va les inviter à dire à Jean, « Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voyez donc, prendre le détail, la précision du terme « annoncer l'Évangile », ce n'est pas totalement inutile. Et à la fin de l'Évangile de Matthieu, presque à la fin, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. C'est très intéressant parce que ça nous permet de préciser la finale de l'Évangile de Matthieu, dont je parlerai dans quelques minutes, où précisément, dans le texte même, il n'y a pas l'annonce de la bonne nouvelle, au sens littéraire du terme. Mais je crois qu'on peut lire l'un par l'autre, la Bible se comprend par la Bible, avait dit un père réformateur, je ne sais plus quel, Lucère, merci mon frère. Alors maintenant, le plus ancien des quatre évangiles, il emploie l'expression de bonne nouvelle en l'associant à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous voyez, deuxième élément qui est constitutif de l'Évangile. Et cet Évangile de Marc indique qu'il s'agit de la réalisation des promesses en faveur de tous les êtres humains. Dans l'Évangile de Luc, il faut repérer que cette expression, l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, est déjà employée à 6 reprises. Et parlons du livre des Actes des Apôtres, 12 mentions. Donc vous voyez sans doute que et l'école paulinienne et l'école lucanienne, en français courant, l'école de Paul et l'école de Luc, sont des fournisseurs importants d'éléments pour comprendre ce qu'est la bonne nouvelle. Alors, nous continuons. Je crois qu'il faut aussi retenir un élément qui, personnellement, me semble fondamental, c'est que Jésus est le premier messager de la bonne nouvelle. Et qu'il lie cette bonne nouvelle à la proclamation du règne. Ça aussi, ce n'est pas totalement indifférent. Et puis voilà que, au fur et à mesure que nous nous saisissons du Nouveau Testament et des Évangiles, nous découvrons que, à la suite de cette proclamation par le Christ, les disciples eux-mêmes sont invités de deux manières à annoncer la bonne nouvelle. Première manière, du vivant de Jésus, ils sont envoyés en mission. deuxième manière, c'est le Christ ressuscité qui leur donne cette mission à vivre dans le monde entier. Et c'est là que je viens à Matthieu 28, versets 18 à 20, un texte relativement connu, ne serait-ce que parce que chez nous, en tout cas, nous l'utilisons pour la célébration du baptême. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, vous avez un compte. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et j'avoue que je mets ça en parallèle avec un texte des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, qui nous donne un autre renseignement. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Élément important, c'est cette affirmation par laquelle nous comprenons que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et j'avoue que je joue souvent sur le mot grec, c'est dynamis. Dynamis, ça indique un mouvement. Et donc, chaque fois que nous comprenons l'Évangile de manière statique, je pense que nous faisons un contresens énorme. La puissance, alors c'est intéressant parce qu'il faut rapprocher ça de l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Là aussi, il y a ce mot de dynamis. Et je crois que ça nous aide à comprendre que l'Évangile ne devient bonne nouvelle que par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et, bien sûr, dans ceux qui sont auditeurs de la bonne nouvelle. Mais ça veut dire que, me semble-t-il, pour pouvoir parler de l'Évangile, il nous faut commencer, alors ça te rejoint tout à fait, je pense, il nous faut écouter. Il nous faut être, tu l'as dit à propos de Vatican II, d'être touché par la bonne nouvelle. Et ça, je crois que c'est tout à fait décisif. Être témoin de Jésus-Christ, c'est plus large que d'annoncer la bonne nouvelle. Je crois qu'il nous faut y être attentif également, parce que, précisément, cette bonne nouvelle est agissante. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une philosophie. C'est une parole agissante, et je crois qu'on a intérêt à repérer qu'en hébreu, c'est le même terme, parole et action. Donc, là encore, et c'est encore une erreur, peut-être que ce n'est pas d'un discours qu'il s'agit, c'est d'une parole qui produit ses fruits dans la vie humaine. Alors maintenant, faisons un peu le tour des épîtres de Paul dans lesquels Paul présente son évangile. Rassurez-vous, je vais être très bref parce que on pourrait en mettre une heure pour mieux comprendre ce qu'il y a dans les épîtres de Paul. J'ai déjà énoncé le fait qu'on peut trouver des éléments concernant l'évangile dans les épîtres aux Thessaloniciens, celles aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens et aux Philippiens. Vous voyez que ça fait que les deux tiers des épîtres de Paul, donc on gagne déjà un tiers, c'est quand même extraordinaire. Ce qui est important, c'est précisément que l'Évangile, ça c'est le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens, l'Évangile est associé au Christ ressuscité. Mais la deuxième nous montre que cette résurrection se produit d'une certaine manière. Alors, c'est déjà le chapitre 15, pardon, se produit dans notre propre vie. Et la deuxième aux Corinthiens nous fait franchir un pas dans la mesure où le chapitre 5, verset 17, c'est un texte qu'on a utilisé dans les semaines de prière pour l'unité des chrétiens, il est dit de l'être humain que celui qui est en Christ est une nouvelle création. C'est-à-dire que c'est en train de s'opérer dans sa propre vie. Simplement, n'isolons pas cette formule en disant « bon, ça me concerne individuellement », ça serait complètement faux. Tout le texte laisse entendre que nous avons à nous réconcilier les uns les autres, ou plus exactement, pardonnez-moi, ce n'est pas précis, nous avons à accueillir l'œuvre de réconciliation opérée par le Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Deuxième point sur l'Évangile, c'est une proposition qui est offerte par Dieu à tout être humain et qui l'amène à réfléchir sur sa vie pour pouvoir vivre une vie nouvelle. Vous voyez que je crois que là aussi on a besoin de se dire, notre réflexion n'est pas une réflexion, si j'ose dire, gratuite. C'est une réflexion pour nous permettre de vivre ce don de la vie nouvelle offert par Dieu. Je crois qu'il est important à cet endroit-là de nous dire en effet que la découverte de la vie nouvelle passe par la reconnaissance du Christ par l'être humain. Car et je suis assez sensible à ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Ce passage insiste sur le fait que la vérité se trouve en Christ. Et on l'aura du reste sous forme d'une reprise un peu différente dans le fameux chapitre 17 du même Évangile, lequel traite de la prière pour l'unité des chrétiens. La vérité, je crois qu'il faut y être attentif, justement dans ce passage du chapitre 17, la vérité est référée dans cet évangile, et voyez qu'un texte est utile pour lire un autre texte. Le chapitre 14 est utile pour nous permettre de lire de manière heureuse le chapitre 17 sur l'unité des chrétiens. Donc « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous permettent d'accueillir cette finale du chapitre 17 dans toute sa portée. Je crois également, troisième point, que l'Évangile, cette proposition, concerne tout l'homme. Tout l'homme, à la fois constitué comme corps, âme et esprit, et comme être de relation. C'est-à-dire que dans ces deux expressions, nous découvrons la portée de l'Évangile pour l'être humain. Il doit élargir sa compréhension de lui-même et il doit se comprendre comme être de relation. C'est constitutif de sa personne. Et voyez donc bien que l'individualisme, c'est une forme de trahison de l'Évangile. Quatrième point, j'essaye d'aller un peu rapidement, l'Évangile se concrétise par la constitution d'une famille universelle. Celle de l'Église composée à la fois d'êtres humains différents et unis les uns aux autres parce qu'unis en Christ, ou plutôt unis au Christ. Je vais vite, je passe à la deuxième partie. La réalité telle que nous pouvons l'appréhender pour mieux connaître notre tâche dans cette société contemporaine. Car je prends un tout petit peu de temps pour nous aider à comprendre que si nous sommes envoyés dans le monde, ça c'est la mission générale, nous sommes envoyés dans un monde précis. Nous ne devons pas nous contenter de répéter au sens littéraire du terme, les paroles des textes fondateurs. Nous sommes appelés à les inscrire dans une autre réalité, quelque peu différente de celle, alors je vais prendre exprès des illustrations, que celle du 1er siècle après Jésus-Christ, ou bien évidemment, chers frères et sœurs protestants, du 16e siècle. Ce n'est pas en répétant Luther et en Calvin, même si c'est Calvin,
ce n'est pas en les répétant que nous annoncerons l'Évangile aujourd'hui. Et donc, rappelez-vous les 9 caractéristiques, mais encore une fois, je veux bien aller jusqu'à 12, les 9 caractéristiques que j'ai données sont indispensables pour nous aider à inscrire, ou à plus exactement, à mettre en lumière des aspects qui existent déjà dans les textes bibliques. Car nous n'avons partiellement rien à inventer. Le texte nous est donné comme parole vivante. Et en même temps, dans chaque époque, je crois que, confrontés à cette époque-là, nous découvrons des aspects que nous n'avions pas perçus précédemment. Et ça, je crois que c'est essentiel pour que nous puissions, en Église, accomplir la mission qui nous est confiée dans ce temps-ci. Et donc, il est important de mieux saisir la réalité humaine ou la réalité sociale. Commençons par la réalité humaine. Je crois qu'il y a quelques éléments qu'il faut prendre en considération. L'homme contemporain se réduit souvent à une instantanéité. À une vue à court terme. Et avec la prise en considération d'instants séparés les uns des autres. Et il me semble que c'est un des plus grands obstacles pour que l'être humain puisse accueillir l'Évangile. Tout simplement parce qu'il a plu à Dieu de s'inscrire dans la vie humaine de manière longue. La patience de Dieu, c'est un des éléments essentiels pour comprendre comment Dieu œuvre dans l'esprit et dans le cœur humain. Et vous comprenez qu'en isolant des instants les uns des autres, ça ne peut pas se passer, sauf action extraordinaire de Dieu. Mais vous comprenez bien que l'Évangile, c'est aussi l'accueil par un être humain d'une vérité pour sa vie. Et s'il ne vit que des instants successifs les uns par rapport aux autres, les uns séparés des autres, je crois que l'accueil est quasiment impossible. Alors, n'oublions pas que pour qu'il y ait Évangile, il faut qu'il y ait alliance et il faut que l'homme soit partie prenante de cette alliance. Même s'il ne fait que répondre, c'est-à-dire être en second degré et pas au premier degré, n'empêche que sa réponse est importante. Je crois aussi qu'une autre caractéristique de l'être humain à l'heure actuelle, c'est que c'est un être humain qui a besoin de prendre conscience qu'il est mutilé. Il est mutilé dans la mesure où il est dissocié, il est décomposé en fait. Il est décomposé et je prends le temps de dire certains attachent de l'importance considérable à leur corps, d'autres à leur psyché. Pardonnez-moi de faire un peu grec, mais je pense que ça peut être utile. La psyché, c'est ce qui donne la psychologie en français. Et c'est clair que des gens se soucient de manière impressionnante de leur état psychologique. En soi, ce n'est pas mauvais. Sauf que précisément, ce n'est prendre qu'une des dimensions de l'être humain en considération. Donc c'est en effet un être qui partiellement est mutilé. Troisième élément, je crois que c'est cet être humain qui est également mutilé quand il ne conçoit les relations avec les autres que de manière utilitaire. J'ai besoin de toi, donc tu vas me rendre service. Et après ça, on ne s'occupe plus de l'être humain. Et voyez que ça a des conséquences énormes sur la perception contemporaine de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que précisément, les caractéristiques de l'Évangile vont à l'opposé de ça. Et je crois que plus nous nous en rendons compte, plus nous sommes capables d'aider les contemporains à saisir que c'est bien une bonne nouvelle que nous proclamons et que nous essayons. Deuxième élément, c'est tout ce qui est autour de la société. La société, j'avoue que je fais très attention à cet élément-là, grâce à des associations comme l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, j'ai découvert que depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis 1945, c'est-à-dire 70 ans et quelques, il y a eu plus de 120 conflits dans une partie ou l'autre du monde. Et donc il serait temps de prendre en considération cette réalité de la violence, mais d'inscrire dans cette réalité la bonne nouvelle, articulée en saisissant que c'est le Christ qui est notre paix. C'est donc pas nous qui sommes directement artisans de paix, mais que ce n'est qu'en accueillant la bonne nouvelle du Christ qu'alors nous pouvons être nous-mêmes artisans. Et ça aussi, je crois que c'est un élément qui est décisif. Je pense également aux États qui se comportent de manière quelque peu curieuse, pour ne pas dire que ce sont des États dictatoriaux. Et je crois que là aussi, nous avons besoin de prendre en considération cette réalité-là. Mais pas en se disant « qu'est-ce que je peux faire ?» parce que là, je crois qu'en effet, nous n'avancerons pas beaucoup, mais en nous interrogeant sur la prise en compte dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien de cette réalité. Alors certes, ce n'est pas dit en termes d'État, mais pensez en termes d'autorité. Je pense bien évidemment au chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Encore faut-il là aussi lire le texte de manière complète. Car Paul ne dit pas qu'il faut magnifier les autorités et les respecter, mais les respecter pour autant qu'elles nous incitent au bien. Donc c'est un critère là aussi qui est décisif pour nous permettre de saisir notre responsabilité à l'égard des autorités, y compris au prix du sang. Accessoirement, je crois qu'il faut le dire, en rappelant aux autorités qu'elles n'ont pas à faire n'importe quoi. Et là, pardonnez-moi, mais je vais prendre le temps de rappeler qu'un certain nombre de chrétiens sous le régime nazi ont su dire des choses, y compris dès 1933. C'est triste de se repérer qu'ils n'ont pas été entendus, mais ce n'est pas de leur faute à eux. Et je crois que savoir que précisément parce que nous sommes inscrits, nous sommes envoyés dans le monde, nécessairement notre manière de proclamer l'Évangile a une portée politique. Et là encore, nous franchirions des pas considérables si nous en étions tous conscients les uns avec les autres. De la même manière que je vous renvoie à un panneau de l'exposition, alors il faut apprendre à lire certains panneaux, mais il y a en particulier un panneau sur Luther qui parle de la doctrine, la théorie des deux règles, parce que précisément je crois qu'elle est fausse personnellement, et il faut repérer que cette théorie des deux règles a empêché des chrétiens allemands de situer de manière juste leur protestation ou leur contestation, en particulier du régime nazi. Ce qui explique pourquoi aussi peu de chrétiens protestants ont contesté la réalité de ce régime. Ils étaient englués dans une théorie qui était fallacieuse. Et ça, je crois qu'il faut en être conscient et de ce fait-là, repérer que nous saisissons l'Évangile en tirant les fruits de l'histoire. L'histoire n'est pas absente quand nous accueillons, quand nous écoutons l'Évangile. Et tirer les fruits de l'histoire, ça nous permet peut-être de faire moins d'erreurs que dans le passé.
Tu peux t'asseoir.
Mais en même temps, en étant totalement, et c'est aussi une exigence indispensable, en étant totalement solidaire de nos frères et de nos sœurs qui nous ont précédés. Car ça aussi, c'est un élément constitutif. Nous ne sommes pas dans un temps isolé des temps précédents. Je ne sais pas si vous saisissiez l'enjeu. C'est-à-dire qu'en effet, nous ne nous comportons pas comme des donneurs de leçons à l'égard des temps passés, mais nous essayons, y compris dans les exceptions brillantes qui ont eu lieu dans ces époques-là, de saisir qu'en effet, il y a eu une difficulté forte importante dans cette époque-là. Bon, je pense au régime nazi, parce que c'est hélas une période que je commence à un tout petit peu connaître, mais c'est intéressant aussi de repérer le versant positif de ça. C'est que malgré la théorie des deux règnes, des chrétiens, et des chrétiens catholiques et protestants, ont été capables, dès le début du régime, d'élever des protestations. Et pardonnez-moi, mais je vais citer Dietrich Bonhoeffer, parce que, ou en plus ça fait sourire certains, c'est épouvantable. C'est pas drôle du tout, mais c'est vrai que c'est très important dans la mesure où cette figure-là est une illustration concrète de, malgré une inscription dans une doctrine théologique, la doctrine luthérienne, cet ami a été capable de voir dès février 33 le piège que constituait le Führer. Et donc, de passer outre à cette théorie des deux. C'est-à-dire que, alors je vais le dire en deux mots, mais je vais de ce fait la caricaturer, mais je t'ai entendu tout à l'heure, donc je me sens rassuré à pouvoir caricaturer. La doctrine des Rennes, c'est une doctrine qui, par certains côtés, peut laisser penser qu'il y a un règne du Christ sur l'Église et que le règne du Christ sur la société n'est pas du même niveau. Moyennant quoi l'un et l'autre ne peuvent pas communiquer. Et je crois que dans son texte de 1933, de février 33, Dietrich Bonhoeffer, par certains côtés, résout le problème méthodologique. Alors bon, je ne peux pas détailler, mais j'y suis personnellement très, très attentif, précisément pour nous aider à comprendre comment l'Évangile peut s'inscrire dans un temps précis. Il y a des moyens indispensables à utiliser pour faire cela. Alors, je vais parler maintenant des relations œcuméniques, et je m'approche de la fin, et des relations interreligieuses. Parce que je crois que nous avons la chance, et cette journée en est un signe, nous avons la chance de pouvoir vivre dans une communion, certes relative, mais certaine pour autant, un dialogue entre chrétiens de différentes églises. Et ce dialogue-là nous rend attentifs à des aspects de l'Évangile dont nous n'avions pas toujours conscience avant d'être dans ce mouvement humain. Et ça, je crois que c'est aussi important que nous en prenions totalement conscience et que nous voyons en quoi cela consiste. Même chose, je n'ai pas le temps de le traiter. Je crois aussi que les relations interreligieuses sont une réalité de notre temps. Et que l'accueillir, c'est nous donner une meilleure chance pour témoigner de cette bonne nouvelle. Et puis je vais revenir à un aspect qui, me semble-t-il, est décisif. C'est le fait que dans la mesure où cette réalité a changé, il nous faut essayer d'en prendre en considération des éléments caractéristiques. Et pardonnez-moi, ici aussi, je vais évoquer Dietrich Bonhoeffer, qui nous rend attentif à deux ou trois éléments qui sont, me semble-t-il, encore pertinents pour notre époque. Nous sommes dans un monde qui est devenu majeur. C'est une des expressions importantes des derniers écrits de Bonhoeffer. Un monde devenu majeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à sa majorité, mais il croit qu'il peut se dispenser d'un certain nombre de recours précédents. Et je crois que c'est intéressant d'arriver jusqu'à ce niveau de compréhension de Bonhoeffer. Et cette réalité-là n'est pas opposée à une autre caractéristique que Bonhoeffer donne, à savoir que nous sommes dans un monde sans Dieu. Et même, je dirais que l'une et l'autre se relient l'une à l'autre. Mais par contre, si on veut saisir toute la richesse de sa pensée, il est nécessaire de se rappeler que Bonhoeffer nous appelle à découvrir qu'au cœur même de cette réalité, le Christ est présent. Et de ce fait, nous sommes appelés par un théologien comme celui-ci de prendre en considération le fait que dans cette réalité-là, alors que le Christ l'habite, nous sommes peut-être invités à parler de manière moins, voire non religieuse, et de manière plus, évangélique. Alors, nous sommes confrontés là à une grande difficulté, mais je ne fais que la repérer parce qu'il me semble que ça suppose un travail énorme. Un des propos de ce théologien du XXe siècle, j'en profite pour rappeler que c'est bien à cette époque-là qu'il se situe, un des propos consiste à dire l'homme ne se considère plus comme religieux. Et saisir cette caractéristique-là nous permet en effet de nous adresser d'une autre manière que dans les temps où, naturellement, l'élément religieux était perçu. Puisqu'il s'est déplacé, l'être humain, d'une certaine manière. Et je crois que de ce fait, nous sommes à côté de la plaque, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, nous sommes à côté de la plaque en pensant qu'il est encore religieux. Ça ne veut pas dire que nous avons acquitté la dimension religieuse de notre foi. Ça veut dire que dans notre manière de dire l'Évangile, nous devons prendre en considération cet aspect. Et je crois que ça, c'est en effet accepter d'être présent dans ce temps-ci et donc d'en connaître les caractéristiques. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a 9 caractéristiques, j'ajoute tout de suite, il faut peut-être en rajouter 3 ou 4. Parce que j'en ai sans doute oublié quelques-unes de ces caractéristiques. Et ce qui me semble important, c'est de nous amener à prendre en considération le temps dans lequel nous vivons. Non pas en nous disant, ah, c'était le bon temps autrefois, mais c'est notre temps dans lequel nous devons vivre. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon les organisateurs vont me dire que j'ai dépassé leur... Voilà, à vous. On reçoit des questions, c'est là que...
à Jackie et à Yves. Alors, je pense... Oui, on va reprendre comme tout à l'heure un petit temps de questions. Vous pouvez vous poser présent, même si malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps d'en reprendre. Mais elles pourront resservir à un autre moment.